Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 7h43 ce matin. Nous recevons François Salakas, qui est neurologue et de la Pitié-Salpêtrière et membre du collectif Interhôpitaux.
Oui, bonjour François Salakas.
Bonjour.
Il y a un peu plus d'un an, au tout début de la crise sanitaire, vous aviez interpellé Emmanuel Macron à la Pitié-Salpêtrière lors d'une visite.
Tiens, on se remet. Personnel hospitalier, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout. On a besoin d'un choc. Vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé. Maintenant, il faut agir.
Oui, voilà. Et maintenant, il faut agir. Nous sommes au bout. Un an après, alors, justement.
Un an après, le bilan est extrêmement maigre. Parce qu'en fait, ce qu'on appelait tous de nos voeux à ce moment-là, c'est de refonder l'hôpital public dont on savait à quel point il ne serait pas en état de faire face à une crise sanitaire qui s'annonçait. Et ce qu'on a remarqué, c'est que il fallait agir sur plusieurs leviers en même temps. Un seul levier, ça ne sert à rien quand la situation est grave. Donc il fallait agir, bien sûr, sur le niveau de salaire, ça a été fait modestement. Il fallait agir surtout sur les conditions de travail. Alors ça a l'air dingue de dire ça à l'hôpital, mais ça veut dire que quand une infirmière doit s'occuper, par exemple, de 15, de 20 patients, c'est évident qu'elle va mal faire son travail. Et quand elle va rentrer chez elle, elle va dire « mais pourquoi je fais ça ?» Et c'est cette perte de sens qui est liée directement à la dignité avec laquelle on exerce son travail et surtout à la dignité qu'on peut maintenir pour les patients qui sont hospitalisés. Ça n'a pas été compris du tout. Troisième point qui n'a pas été compris du tout, la gouvernance. Actuellement, le patron absolu d'un hôpital, ça reste, depuis la loi HPST qu'on doit à Nicolas Sarkozy, il y a à peu près 11 ans, ça reste le directeur de l'hôpital qui, lui, a l'œil rivé sur les compteurs sur l'équilibre financier. Et finalement, ça devient complètement fou. Un hôpital, actuellement, on se demande si c'est encore fait pour soigner ou si c'est fait pour être en équilibre. Donc, de ce point de vue-là, rien n'a changé. Et puis, parlons de l'argent qui est mis dans les hôpitaux.
Oui,
vous savez,
oui,
il y a une loi qui s'appelle la PLFSS qui est votée chaque année par l'Assemblée.
Oui, bien sûr. Oui.
Et là, pour l'année qui vient, on demande encore, finalement, comme les autres années, 1 milliard d'économies à l'hôpital. C'est ce qu'on a demandé tous les ans depuis une dizaine d'années. Après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes. Eh bien, quand on n'apporte pas les financements à la hauteur des charges, du tendanciel des charges, c'est ce qui se passe.
Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Sur le personnel soignant et sur les lits de réanimation aussi, qui sont des questions quand même cruciales du moment, où en est-on ? Où est la vérité, justement, sur les lits de réanimation ? Véran avait promis une capacité de 12 000 lits. On les a ou pas ?
Non, on ne les a pas du tout. Et puis, il faut arrêter avec ces histoires de lits. Un lit tout seul, ça ne sert à rien. Il faut avoir des équipes de soignants habitués à travailler. Et l'idéal, c'est des équipes habituées à travailler ensemble. Si on demande à des mercenaires, comme les intérimaires, de venir et de s'intégrer à une équipe, ça ne marche pas la plupart du temps.
Mais on peut former quand même des personnes, quoi.
Oui,
on avait commencé en Alsace il y a un an, au moment de la crise. On en avait formé, ça avait un peu marché, fonctionné. J'ai l'impression qu'on a laissé tomber et qu'on est en train de reprendre ça.
Non, mais il y a une supercherie là-dessus. C'est pas vrai qu'on forme des personnels de réanimation en leur faisant faire 2 jours de théorique, 3 jours d'immersion dans un service et puis de la simulation sur des mannequins. Je veux dire, tous les soignants le savent, ça. Donc, c'est évident que ça n'était pas à la hauteur de la situation. Mais surtout, je veux redire quelque chose d'extrêmement important. Il fallait un énorme choc de confiance. Il y a eu le Ségur. Le Ségur n'a pas apporté ce choc de confiance. Les soignants qui voulaient quitter l'hôpital l'ont quitté ou vont le quitter. Et ceux qui hésitaient à y venir, on pense qu'ils ne vont pas venir. Donc, c'est ça qui nous préoccupe, nous. C'est-à-dire qu'on a un outil de travail qui s'est dégradé à un point tel que maintenant, il faut être extrêmement volontariste. Où est le volontarisme d'Emmanuel Macron dans ce domaine ?
Oui, Emmanuel Macron, Olivier Véran aussi, le ministre de la Santé, vous avez l'impression qu'il est à l'écoute ou qu'il est un peu débordé parce qu'il y a cette crise sanitaire. Il est peut-être un peu seul d'ailleurs, non ? Il n'aurait pas fallu...
Non, mais on ne va pas se lancer dans des attaques ad hominem, ce n'est pas l'objectif. On peut simplement dire qu'Olivier Véran, malgré sa culture de soignant, est un homme politique depuis une dizaine d'années.
Oui. Alors Emmanuel Macron a dit hier soir en conclusion du Conseil européen qu'il a eu raison de ne pas reconfiner fin janvier, début février, là au moment où il était alerté, et il dit qu'il n'y a aucun constat d'échec dans sa stratégie. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, vous, en tant que personnel soignant et membre du collectif Interhôpitaux ?
Je ne sais pas. Moi, je pense que quand on entend des choses comme ça, on entend autre chose. On entend « j'ai eu raison d'avoir tort » d'une certaine façon. Vous savez ce qu'on dit a posteriori. Ce n'est pas du tout l'analyse. Et d'ailleurs, dans les prédictions épidémiologiques qui avaient été faites, ce qu'il a dit hier n'est pas exact. C'est-à-dire que les prédictions sont tout à fait en phase avec ce qui arrive dans la réalité. Et un certain nombre d'épidémiologistes expliquent qu'avec le variant anglais, ce qui devait arriver arriva.
Ouais, ouais. C'est-à-dire que, et face à ça, puisqu'il y avait cette menace du variant anglais, donc d'une contamination beaucoup plus forte, il aurait fallu prendre des mesures plus strictes, du vrai reconfinement.
Oui, alors dans un monde idéal, ce qu'il aurait fallu faire, c'est confiner très fort et utiliser la période de confinement pour vacciner à toute vitesse la population.
Oui. Sauf monde idéal, bien sûr. Oui,
oui, enfin, idéal. Ça a lieu en Israël, par exemple. Donc, ces success stories existent quand même. La seule question, et le seul tout petit mea culpa qu'on a entendu hier, c'est on a été trop rationnel et on aurait dû se lancer dans l'obtention de vaccins, et notamment en termes de politique d'achat, beaucoup plus tôt. Finalement, on aurait dû rêver un peu plus. Vous vous rendez compte ? Un président de la République qui dit « on aurait dû rêver un peu plus », alors qu'actuellement, il y a dans les hôpitaux l'équivalent d'un crash d'avion tous les jours, d'un crash d'Airbus A320. Moi, je trouve que là, il y a au minimum une discordance, et on se demande si on parle de la même chose, finalement.
Oui. D'autant que, c'est vrai, on a dit dans un premier temps que les personnes qui décédaient étaient des personnes fragiles qui, quoi qu'il en soit, malheureusement, allaient décéder dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la même situation ? On a l'impression qu'il y a une population plus jeune, c'est vrai ou pas ?
Oui, alors ça, tous les réanimateurs l'ont observé. C'est vrai que la pyramide des âges au sein des réanimations a changé. Alors, ça affecte la moyenne en passant, en gros, de 65 à 63 ans. Mais ce qu'il faut voir, c'est les extrémités, en fait, des âges. Et il y a actuellement, oui, des personnes d'une trentaine d'années, dont certains n'ont pas de comorbidité. Et probablement, c'est le nouveau variant qui est responsable de ça, bien sûr.
Oui. Tant qu'on ne prend pas de nouvelles mesures, de reconfinement ou pas, ou de fermeture peut-être des écoles, puisqu'on dit aussi qu'il y a propagation à travers les jeunes. Est-ce que vous craignez, vous redoutez que ça continue d'exploser, le nombre de contaminations, la 45 000 par exemple pour la journée d'hier ?
On est malheureusement à peu près sûr que l'inertie du système, puisque c'est en fait une épidémie actuellement en phase exponentielle, c'est un train lancé à grande vitesse. Et qui s'accélère. Donc, on sait à peu près ce qui va arriver dans les 10 jours qui viennent. Et c'est pour ça que les soignants sont extrêmement inquiets. Le président a voulu donner une image de calme hier, dans la tempête. Ceux qui sont sur le terrain et qui sentent les choses sont extrêmement inquiets. Et j'irai même plus loin par rapport à la première vague, où finalement tout le monde a été surpris, on s'est retroussé les manches et on a réussi à faire des choses, notamment parce qu'il y avait les moyens de le faire en termes de personnel. Là, on sait très bien qu'on arrive beaucoup moins armé pour cette vague-là. Et donc, un certain nombre de soignants...
Pourquoi moins armés ?
Mais moins armés parce que nous n'aurons pas les renforts des autres régions et que les soignants sont épuisés, qu'ils n'ont pas vraiment pu se reposer entre les vagues. Et donc, il y a une situation extrêmement inquiétante. Et je dirais que là, la vague, on sait à peu près la taille qu'elle va avoir. Et c'est comme quand on a l'habitude de faire de la voile dans les 40e rugissant et qu'on voit une vague scélérate arriver dont on sait qu'elle peut coucher le bateau, eh bien c'est ça l'état d'esprit des soignants actuellement, parce que maintenant ils savent ce que c'est, et ils savent aussi jusqu'à quel point ils vont pouvoir faire face ou pas. C'est pour ça que les mesures plus importantes sont maintenant urgentissimes.
Oui, urgentissimes. Et donc il ne faut pas retarder de semaine en semaine, quoi. Ça ne sert à pas à grand-chose, quoi, ce que vous dites. Hein. Au contraire, quoi.
Alors plusieurs choses. D'abord, chaque jour compte à partir de maintenant sur ces mesures. Et deuxièmement, l'idée qu'on a gagné du temps en retardant le reconfinement, c'est un peu comme quand vous remontez une horloge, si vous voulez. Une fois que le ressort est bien remonté et qu'on lâche, c'est ce qui se passe pour l'épidémie. Donc, à mon avis, on a reculé pour mieux sauter. Et quand on dit mieux sauter, il faut voir derrière cette expression ce qu'il y a en termes de mortalité et de morbidité, parce qu'on parle toujours des morts, on ne parle pas assez des séquelles à long terme du Covid et des drames que ça peut provoquer.
Oui, et les espoirs sont donc dans la vaccination aussi, en dehors des renforts, là, bien sûr, et puis de mesures.
Bien sûr, la vaccination, c'est extrêmement important. Il faut faire de la pédagogie pour ceux qui seraient encore sceptiques vis-à-vis des vaccins. Ça, c'est fondamental.
Oui, oui. Et les traitements, vous y croyez ou pas ?
Non, mais enfin, sur le front des traitements, il y a rien de très nouveau. Oui. Ce qui est nouveau par rapport à la première vague, c'est qu'on sait mieux s'occuper de ces patients. on sait mieux les gérer,
oui.
En sachant que leur profil change un peu également, et notamment leur capacité à se rendre compte qu'ils ont des taux d'oxygène un peu bas changent.
Oui. Juste un mot aussi, parce que évidemment ça désorganise complètement les hôpitaux avec beaucoup de déprogrammation, etc. Quelles mesures il faudrait à long terme pour l'hôpital ?
Oula !
Non, mais c'est
vous laissez 25 secondes.
En deux minutes.
En deux minutes. Alors, en fait, il faut reprendre le problème à la base. L'hôpital public, en particulier, ça reste un travail d'équipe. Donc, il faut des équipes soudées, il faut des équipes stables. Or, là, on s'est aperçu que dans les équipes, les plus anciens restent 2-3 ans et n'ont même pas le temps de former les suivants. Donc, il faut recréer un noyau dur dans les équipes, premièrement. Pour ça, il faut que ce soit attractif en termes, effectivement, de salaire, parce qu'on est toujours au 24e rang de l'OCDE, on n'a pas beaucoup bougé, avec les 183 euros du Ségur, mais aussi en termes de conditions de travail, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Troisième point, il faut que la gouvernance se symétrise entre les directeurs administratifs et les soignants. Et quand je dis soignants, je ne pense pas qu'aux médecins. Je pense aux infirmières, aux cadres. Et puis, il faut que les usagers aient leur mot à dire dans l'histoire. Troisième point, mais peut-être qu'on pourrait le mettre dans l'autre sens, c'est le financement. Actuellement, l'hôpital public, il est financé par une loi chaque année et on le met en déficit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dernier point, l'hôpital actuellement est géré comme une entreprise, c'est-à-dire qu'on fait moins bien que le privé en termes de gestion, parce qu'en fait, on veut appliquer les mêmes recettes. Or, l'hôpital n'est pas là pour ça. L'hôpital, il est là pour soigner. Il n'est pas là pour être en équilibre et pour qu'à la fin, sur les tableaux Excel, on vous dise « oui, c'est bien, vous avez progressé » et que le mot de patient, je rappelle, au cours de ces réunions, n'est jamais prononcé.
Ben vous voyez, en moins de deux minutes, François Salacas. Dernière question, allez, avec Cécile de Ménibus.
Oui, les hospitalisations des moins de 15 ans pour motifs psychiatriques explosent de plus de 80%, avec une augmentation des tentatives de suicide. Certains parlent d'une dépression saisonnière où c'est vraiment un mal extrêmement profond. Est-ce que ça veut dire que cette génération est en danger ?
Oui, alors d'abord, je vous remercie de poser cette question parce que c'est une question extrêmement importante. Mmh. On sait effectivement que ces taux-là ont augmenté. On ne sait pas encore trop les quantifier. Mmh. On pense aussi que ce type de crise, ça démasque une fragilité dans la société. Effectivement, une fragilité des jeunes, mais aussi une fragilité du système qui est censé leur venir en aide. Et au sein du système de santé français, la psychiatrie est vraiment une spécialité sinistrée. On parle d'un plan d'urgence pour la psychiatrie. Il va vraiment falloir que ce plan d'urgence soit extrêmement efficace. Nos collègues psychiatres au sein du collectif Interhôpitaux sont extrêmement inquiets.
Oui, inquiets. Et donc, il y a cette montée. Quoi.
Oui,
c'est
cette montée,
très inquiétante chez les jeunes, prendre la question de Cécile.
Il y a cette montée, mais il y a aussi le fait que globalement, tout ce pourquoi l'hôpital est fait en général, c'est-à-dire tout en dehors du Covid, n'est absolument plus assumé actuellement.
Mais on a raison de s'inquiéter, fortement ?
Oui, je pense qu'on a raison de s'inquiéter. Après, je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas un spécialiste de ces questions.
Mais... Oui. Merci beaucoup, François Salacas, donc neurologue à la Pitié-Salpêtrière, membre du collectif Interhôpitaux, d'être venu ce matin en direct sur Sud Radio.
Et dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.